toujours là pour nous bercer. Quoi que l'on pense, où que l'on soit, dans n'importe quel état qu'on est, la nuit, elle, est toujours belle. Toujours belle. Ah, mais comme il est beau le jour. Amen. Ah, mais qu'il est beau tous les jours. Amen. Il est là pour les mal-aimés, aussi là pour les enculés. Il encaisse. Il encaisse. On a beau dire, on a beau faire tout ce qu'on peut pour tout gâcher, mais le jour, lui, n'en a rien à faire. Il est si dense et coloré. On a beau rire ou beau pleurer, se défoncer pour oublier, mais le jour, lui, n'en a rien à faire. Il est si dense et coloré. Il est là pour nous rassurer. Jusque-là, tout va bien. Amen. Jusqu'ici, tout va bien. Amen. Amen. Thank you.
micro. Allô, on cesse les interférences et on commence à résonner.
Polémisons. Calme.
Bonsoir, vous êtes bien sur la clé des ondes 90.10 et vous avez l'honneur d'écouter ce soir Achaïra, l'émission bimensuelle animée par le cercle Jean Baruet de la Fédération anarchiste. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
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 Libres auditeurs, bonsoir.
Alors, au menu de cette croustillante soirée, donc après les éphémérides qui nous rafraîchiront la mémoire, qui a laissé son ordinateur branché. Après les trois éphémérides, nous allons vous proposer l'interview d'un auteur américain qui s'appelle Ronald Craig et qui est l'auteur d'un livre qui intitulé Utopie américaine, un livre paru chez Agone dont le sous-titre est Expérience libertaire du 19e siècle à nos jours. Tout un programme que nous allons pouvoir savourer et donc avec l'interview en direct de son auteur.
Aux éditions Agone.
Livre, c'est bien ça ? Oui, paru aux éditions Agone assez récemment. Ensuite, nous traiterons l'actualité dans tous ces états. La répression, le mouvement syndical.
Les sans-papiers.
Les nanotechnologies. Notamment le débat organisé par le gouvernement.
Une petite chronique de livres.
Oui.
Il s'agit d'une Espagne noire et rouge. Voilà, édité aux éditions Libertaires.
D'accord.
Probablement une recette culinaire.
Ah, enfin.
C'est pour ça que c'est croustillant.
Le retour de la cuisine. Bien, alors, honneur aux éphémérides. Philo, c'est toi qui...
qui remonte le plus dans le temps. Et donc, je vous propose de faire un voyage en octobre 1926... le 21 octobre 1926 exactement, pour parler du massacre de Bandembéré à Ubangui-Chari. Le chef Samba Ngoto vient une nuit raconter ceci à André Gide. André Gide le rapporte dans son voyage au Congo, paru en 1927 chez Gallimard. Le 21 octobre dernier, le sergent Yamba fut envoyé par l'administrateur de Boda, nommé Pacha, à Bandembéré, pour exercer des sanctions contre les habitants de ce village qui avaient refusé d'obtempérer à l'ordre de déménager leur gîte sur la route de Carnot, la Centrafrique actuelle, désireux de n'abandonner point leur culture. Ils arguaient en outre que les gens établis sur la route de Carnot sont des bayas, tandis qu'eux sont des beaufis. Le sergent Yamba quitta donc Boda avec trois gardes. Ce petit détachement était accompagné de Boué, Capita, et de deux hommes commandés par ce dernier. En cours de route, le sergent Yamba réquisitionna deux ou trois hommes dans chaque village traversé et les amena après les avoir enchaînés. Arrivés à Bandembéré, les sanctions commencèrent. On attacha 12 hommes à des arbres, tandis que le chef du village, un nommé Kobelé, prenait la fuite. Le sergent Yamba et le garde Bonjo tirèrent sur les 12 hommes ligotés et les tuèrent. Il y eut ensuite un grand massacre de femmes que Yamba frappait avec une machette. Puis s'étant emparé de 5 enfants en bas âge, il enferma ceux-ci dans une case à laquelle il fit mettre le feu. Il y eut en tout, nous dit Samba Ngoto, 32 victimes. Après son témoignage, Samba Ngoto, de retour à Boda, est jeté en prison avec des membres de sa famille par Pacha, qui part en tournée avec le ci-devant Yamba. André Gide transmet ce témoignage par lettre au gouverneur qui ordonne une enquête administrative. Confiée à M. Marchessou, l'enquête confirme les faits. Le procès de Pacha aurait eu lieu. Gide relate son voyage dans le populaire de Léon Blum. Le directeur de la compagnie forestière Sanga Ubangui répond au journal. Il y écrit que ce Samba Ngoto est un anthropophage avéré, commerçant en esclaves, pillard et voleur, et que pour les faits ci-dessus, il s'agit là d'une querelle de nègres.
Bien.
Petit saut dans le temps, tu vois.
Oui, léger. Donc on va remonter jusqu'en 41. et plus exactement le 21 octobre 1941, pour parler de Federica Mancini, qui, ce jour-là, réfugiée en France et enceinte de sa fille Blanca, est arrêtée par la police de Vichy et emprisonnée à Périgueux, en Dordogne, puis ensuite transférée à Limoges, où elle retrouvera l'argot Caballero. Elle passe ensuite en procès et évite de peu une extradition en Espagne. Elle sera finalement assignée à résidence. Les autorités de Vichy lui interdiront même d'accoucher à la maternité de Périgueux. Alors Federica Mancini, c'est une des grandes figures de l'anarchisme et de l'anarcho-syndicalisme espagnol, qui a été un temps ministre de la Santé pendant la guerre civile. Elle est née le 12... Enfin, la guerre civile. Bon. On reviendra pas là-dessus. Elle est née le 12 février 1905 à Madrid, fille des anarchistes catalans Juan Mancini et Teresa Manier, fondateur de la Revista Blanca, qui fut fondée donc en 1898, qui est une revue, et à laquelle Federica, peu après, viendra apporter son aide à son père. Donc elle milite très jeune à la CNT. Elle fait donc reparaître à partir de 23 la Revista Blanca, puis une nouvelle publication qui deviendra mensuelle, la Novella Ideal, le roman idéal, roman de propagande libertaire, parlant d'antimilitarisme, d'entraide, d'amour libre, etc., etc. En 1930, elle se lie au compagnon Germinal Esgleas. Pardon. En 1936, elle est au comité régional de la CNT et au comité péninsulaire de la FAI. Elle participera au nouveau gouvernement républicain avec 3 autres membres de la CNT, bon, sachant que cette participation d'anarchistes au gouvernement sera largement controversée. En tant que ministre de la Santé, elle fera voter une loi légalisant l'avortement. À la fin de la guerre, elle est contrainte à l'exil en France et connaîtra les prisons françaises avec son compagnon Germinal. Une fois libérée, Federica reprendra son militantisme à la CNT. Elle est en exil et elle le fera dans la région de Toulouse. Les activistes antifranquistes, partisans de la poursuite de la lutte armée contre Franco, lui reprocheront alors son immobilisme. Voilà pour Federica Mancini.
Bien, maintenant nous nous retrouvons en 1988. Donc le ministre de la Justice s'appelait alors Monsieur Arpaillange, Pierre de son prénom, et ce monsieur était un adhérent de la Ligue des droits de l'homme, en même temps qu'il occupait donc le poste de garde des Sceaux. Et le 17 octobre 88, à l'appel du comité pour l'abolition de l'isolement carcéral, a eu lieu l'occupation de du local de la Ligue des droits de l'homme. Voici un passage du tract qui appelait à cette occupation. Drôle de démocratie que la nôtre, le chef de l'État et son ministre de la Justice se sont prononcés contre l'isolement, et celui-ci est pourtant maintenu. Pierre Arpaillange, encore aujourd'hui membre de la Ligue des droits de l'homme, n'entend peut-être pas assez distinctement les cris de souffrance et de révolte des détenus emmurés vivants dans les quartiers de la Morlande. Chaque jour, chaque semaine amplifie le désastre. Et nous ne trouvons en face de nous que des gens qui disent être résolument contre l'isolement. L'occupation de la Ligue des droits de l'homme peut paraître ambiguë à certains. Elle veut dénoncer l'hypocrisie criminelle de ceux qui nous gouvernent. Lors des révoltes de mai-juillet 85, pour ne pas remonter plus avant. 500 prisonniers y passent chaque année, et beaucoup pour des périodes qui excèdent largement 3 mois, renouvelables légalement une fois. Donc, il faut rappeler quand même que, à l'arrivée de la gauche au pouvoir, il a été demandé de supprimer les fameux QHS, quartiers de haute sécurité. Alors, effectivement, ils avaient disparu nominativement, hein, mais ils ont été remplacés de facto par les quartiers d'isolement tout aussi répressifs et abusifs envers les personnes qui étaient victimes, donc les incarcérés. Voilà.
Et donc, ce qu'on peut dire, c'est le fait que ce week-end avait lieu à la...
Nadia Ménanger.
Ménanger, voilà, qui présentait donc son travail sur le, qu'on s'appelle, à ceux qui se croient libres, et donc a souligné que malgré le fait que ce soit un dimanche après-midi, la salle était remplie, qu'il y avait beaucoup de gens, dont des gens jeunes intéressés par ce débat, qui était fort intéressant, et voilà, donc il y a, cette question n'est pas marginale, et intéresse et interroge, et c'est très bien.
Et on en reparlera tout à l'heure dans l'actualité aussi, après ce qui s'est passé à Poitiers récemment. Une petite musique avant de lancer l'interview. Flora, tu veux dire ?
Non.
D'accord. Alors, c'est parti.
La solidarité est une arme libérée. Moi le B, tu calibres tous. Ma voix pousse les murs, boum, boum. Quand ils envoient leurs troupes à la rescousse. Ensemble, c'est ensemble que nous sommes. Invincibles, préparés quand ils envoient leurs hommes. En première ligne dehors, sans avoir reçu d'ordre. Ressent le cœur qui tonne pour défoncer leurs portes.
En 2009, toujours d'actualité. On avance en terrain miné en proclamant la légitimité de la lutte armée. Par tous les moyens nécessaires, frères de nos quartiers populaires. L'autodéfense est un droit, une posture inébranlable. Au même titre que l'amour de la liberté, l'ambiance électrique est palpable. Noyau, cellule, groupe organisé, brigade. Commando autonome, branche musicale de ceux qui ont décidé de résister. Ambiance amicale, esprit de camaraderie. Autogestion, indépendance et autonomie. Réseau clandestin, technique sophistiquée. Infiltration RG, démasqué et ligoté. Commissariat brûlé, bombe artisanale. Vitrine éclatée, réseau de communication saboté. Acharné, choc frontal éternel. Lutte des classes, méthode ancestrale. Homme politique retrouvé dans le coffre buté. Une balle dans la nuque et dans la poche à communiquer. Violence à son apogée. Opinion manipulée en état de choc. Tant qu'elle prend sa dose de TV Foc, elle oublie vite qui est à l'origine des hostilités, des politisations alarmantes du prolétariat, spontanéité des masses et morale du révolutionnaire au plus bas. Est-ce que ça justifie de condamner le peu qui brandissent une arme pour lutter? Moi je ne crois pas. En 2009 on assume toujours autant et on refuse de marcher au pas. Les utopistes lèvent le poing, convaincus que la solidarité est une arme. Propos explicites, clairs, limpides, mis à nu de nos cœurs et de nos âmes. La solidarité est une arme, libérez-les. Mon poing levé, tu calibres tous. Ma voix pousse les murs, boum, boum. Quand ils envoient leurs troupes à la rescousse.
Ensemble,
c'est ensemble que nous sommes.
Invincibles, préparés quand ils envoient leurs hommes. En première ligne dehors, sans avoir reçu d'ordre. Ressent le cœur qui cogne pour défoncer leur.
J'suis pas n'importe quel con, j'veux pas devenir. J'suis déjà quelqu'un, et loin d'être quelconque. Car quand j'tombe, j'suis le seul sur lequel j'compte. Mais c'est ensemble qu'on peut être invincible. Ne plus devenir la cible des flics et autres racistes, couleurs d'affiches. Mettre fin à un cycle où on nous dit qu'il en est ainsi. Rallumer l'étincelle, les devancer, réaliser de belles choses à la De Vinci. Car ici ça taffe à l'intérim, se prive de tout loisir. Et c'est nous que l'on dit oisif. En somme, nous sommes des bêtes de somme, bonnes qu'à produire. Va comprendre. Il est plein, ils sont blindés jusqu'à l'os et c'est eux qu'on plaint. La solidarité. Mais imagine tout ce qu'on assassine. L'internationaliste et cette team. Quand dans sa solitude, l'individu n'entend pas les bombes. Moi je me veux citoyen du monde. Adopte l'attitude de ceux qui luttent contre un système qui tue. Ils mondialisent, donc on en fait de même. solidaire de ce qu'on enferme. C'est la parole de ce qu'on veut faire taire. L'Eldorado du clan d'eau traversant terre-mer. Et le jet de ce bourgeois qui peut tout se permettre. Tu connais la devise, on fait pas ça en vain. On rappe pour demain car résister c'est vaincre. La solidarité est une arme, libérez-les. Mon poing levé, tu le calibres tous. Ma voix pousse les murs, boum, boum. Quand ils envoient leurs troupes à la rescousse. Ensemble, ensemble, c'est ensemble que nous sommes. Invincibles, préparés quand ils envoient leurs hommes. En première ligne dehors, sans avoir reçu d'ordre. Ressent le cœur d'icônes pour débrousser leurs portes. On m'a péjorativement traité.
Bonsoir Ronald.
Bonsoir.
Tu nous entends?
Parfaitement.
Très bien. Ben, bienvenue dans l'émission. Merci d'avoir accepté de subir le feu des questions.
J'espère que je ne me brûlerai pas.
Ouais. Nous sommes des incendiaires, n'est-ce pas? C'est bien connu.
Voilà, donc ce qu'on peut dire, voilà, c'est que deux choses d'abord pour resituer. D'un côté, tu viens de sortir donc un livre qui s'appelle Utopie américaine, dont on a parlé, expérience libertaire au 19e siècle à nos jours chez Agon.
Oui.
Et tu viens le présenter à Bordeaux ce samedi à l'Athénée libertaire, donc à 17h rue du Muguet. Et donc voilà, nous nous proposions mais de donner envie aux auditeurs de venir te rencontrer samedi et d'aller plus profondément dans ce travail. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ben deux mots sur l'histoire de comment, ben deux mots c'est peut-être je sais pas, sur comment tu as eu envie de faire ce travail. Et puis après, on rentrera peut-être un petit peu dans ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça recoupe comme notion.
Est-ce qu'on peut te demander, Ronald, si ce bouquin, c'est une sorte de réédition de celui que tu avais déjà sorti il y a quelques années?
Non, justement, ça devait l'être, mais ça ne l'est pas.
D'accord.
Parce que, bon, moi, c'est ce que j'avais souhaité, faire une réédition. Et puis, finalement, ce que nous avons décidé, c'est d'abord de l'actualiser jusqu'à nos jours. Donc on parle des communautés dont certaines sont encore actuellement existantes. Et d'autre part, j'ai réfléchi beaucoup depuis l'époque sur l'utopie, sur ce qu'on entendait par utopie. Je continue d'ailleurs à y réfléchir, d'ailleurs même depuis que j'ai écrit ce livre. Et donc il y a vraiment énormément c'est pratique. Je crois qu'il doit y avoir à peu près le double du texte de ce qu'il y avait dans le laboratoire d'utopie, avec des points de vue totalement nouveaux par rapport à ce qui avait été écrit. Bien sûr, ce qui a été écrit, je ne le renie pas, et on le retrouvera. Il s'agissait des communautés jusqu'en 1960, donc cet aspect-là existe toujours, mais il y a une énorme introduction, il y a une conclusion qui a été ajoutée, un glossaire, etc. Et surtout, ce que je considère particulièrement important, cette réflexion sur l'utopie et son rapport avec le mouvement social.
Et justement, là, peut-être pour clarifier les auditeurs, bon, l'utopie pour beaucoup de gens, c'est ce qui est irréalisable, c'est du rêve, et donc, et toi tu mets tout de suite un sous-titre d'expérience, donc est-ce que tu peux nous donner des précisions sur ce que tu appelles ce que tu appelles ou ce qu'on appelle l'utopie,
Oui, alors, je prends le contre-pied de tout ce qui a été dit sur l'utopie jusqu'à nos jours. Disons que je fais un peu une sorte de, c'est peut-être prétentieux de le dire, mais je crois que c'est ça, une révolution galiléenne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a toujours pensé que l'utopie, c'était quelque chose qui sortait de l'imaginaire de l'homme. C'est un point de vue que je considère tout à fait auto-centré sur l'homme. Nous sommes une humanité qui est trop centrée sur elle-même, qui voit tout ce qu'on appelle d'un point de vue anthropocentrique. Il me semble qu'en réalité, l'utopie n'est pas simplement dans l'imagination de l'homme, elle est dans le réel, elle est dans l'univers. Lorsque la Terre n'était qu'un ensemble de gaz, imaginez qu'un jour il y aurait là-dedans de la vie, c'était de l'utopie. Et l'univers a créé l'utopie. Et quand il n'y avait que de la vie et des poissons, penser qu'un jour ça volerait, c'était de l'utopie. De même, quand il y a eu des poissons, des vannes et des oiseaux, imaginer qu'il y aurait un jour l'humanité, c'était de l'utopie. L'utopie est dans le réel, elle n'est pas simplement dans l'esprit des gens, dans l'imaginaire des gens. Elle est le nombre infini de possibilités qui se présentent à nous à chaque instant de notre vie.
C'est du concret. Justement, moi je suis un peu étonné que tu parles d'utopie et tu parles en même temps d'expérience réelle. Tu vois, est-ce que c'est pas contradictoire? Est-ce que c'est pas un oxymore?
Non, justement, parce que je crois que chaque instant de notre vie est plein d'un nombre infini de possibilités que nous n'avons pas l'habitude de voir parce que nous vivons dans la routine. Je ne prétends pas que l'utopie soit nécessairement quelque chose de parfait, ni de beau, ni de magnifique. C'est à la fois du magnifique et de la catastrophe. C'est toujours les deux. Ça dépend du point de vue où l'on se place. Quand tu perds quelqu'un qui t'est très cher, c'est une catastrophe. C'est quand même quelque chose de bénéfique pour les pompes funèbres. Et quelquefois, la mort de quelqu'un peut être la libération pour les personnes qui restent. Donc, je veux dire, la question de savoir si l'utopie est une catastrophe ou quelque chose de bien dépend des points de vue des gens, des moments de chaque instant, et ainsi de suite. Donc, je ne dis pas que la perfection est à nos portes. C'est pas du tout ça. Ce que je dis, c'est que nous avons à chaque instant un nombre infini de possibilités. Bon, chaque instant, ce sont d'autres infinis, parce qu'il y a des pluralités d'infinis, de possibilités. Mais ce sont des possibilités qui s'offrent à nous à chaque instant. Tu sors de la maison, et puis tout d'un coup, tu découvres quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis 30 ans, et tu décides d'aller vivre avec. Je veux dire, nous sommes pleins de choses comme ça, et notre vie est pleine de hasards. Si on réfléchit bien à tous les hasards qui ont conduit notre vie, on s'aperçoit que souvent, ils ont joué des rôles essentiels. Et ces hasards, c'était l'utopie que nous avons su voir à ce moment-là. Malheureusement, nous ne savons pas la voir à chaque moment.
Pour autant, il y a eu une époque... Même aujourd'hui, on dit que c'est une époque qui manque d'utopie. Il y a eu une époque où il y avait des marchands d'utopie... des auteurs d'utopie, mais on peut dire des marchands d'utopie qui ont vendu l'idéal communiste scientifique ou marxiste, on va dire, et puis qui où cette utopie-là, leur filiation a donné des choses qui étaient en contradiction visiblement avec la promesse qu'ils décrivaient, quoi.
Oui, mais
donc,
ça parce que
c'était de l'utopie quand même au départ.
Non. Ces gens-là ont utilisé l'utopie pour manipuler les gens, n'est-ce pas? Demain, nous pouvons très bien avoir un président de la République qui déclare qu'il est anarchiste, n'est-ce pas? Histoire de se rallier des anarchistes s'il en avait besoin, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Mais le colonel Kadhafi s'est dit qu'anarchiste, par exemple. Je veux dire, pour les besoins de manipuler l'opinion, on prendra n'importe quelle phrase et on dira n'importe quoi. Mais c'est pas à prendre au sérieux. Il y avait effectivement au moment de la révolution russe un véritable idéal et il y avait une utopie aussi qui était offerte. Mais ce qui s'est passé, c'est que Lénine et compagnie ont utilisé cela pour leurs propres fins et ils ont manipulé l'idéal parce que c'est toujours quand on parle de justice, en général les gens qui nous parlent de justice et d'honnêteté sont les gens les plus malhonnêtes de la Terre. Oui, je pense que quand ils nous parlent d'utopie, etc., ce sont en réalité des gens qui vont manipuler pour leur propre fin.
Moi, si j'ai bien compris, l'utopie, ça peut aussi être l'horreur.
Absolument.
D'accord. Bon, pour moi, ça me semblait toujours quelque chose de positif, l'utopie.
C'est les deux. C'est toujours à la fois
d'accord.
L'horreur et le magnifique. Je veux dire, tomber amoureux, c'est quelque chose de magnifique, et ça peut être un enfer à deux.
Mais, d'accord, mais la promesse de départ, bon, c'est plutôt... Enfin, la promesse, oui. L'utopie, elle est quand même, a priori, dans son acception, plutôt porteuse de bonheur, d'amélioration, de...
Bon, ce n'est pas comme ça non. que je... Oui, moi, mmh. Oui, ma part là, c'est... Il faudrait que j'explique très longuement pourquoi je pense que ce point de vue de signification est discutable, n'est-ce pas? Ça serait un peu long à expliquer là comme ça, ici, là, tout de suite. Mais ce que je pense, c'est que effectivement, l'utopie, pour moi, c'est une opportunité de changement qualitatif dans la vie.
En bien ou en mal.
Mais ce changement qualitatif peut être à la fois bien et mal, les deux à la fois. Mmh. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est toujours les deux.
Alors quand tu parles des expériences utopiques,
oui.
En général c'est plutôt pour le bien. Est-ce qu'il y a du mal en même temps?
Ben, ça peut être du mal en même temps. C'est-à-dire que ce que je pense, n'est-ce pas, j'écris ce livre en même temps, c'est un peu une réponse aussi à cette question. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au suicide collectif de l'humanité. Au point de vue écologique, au point de vue de la misère des gens, au point de vue de la paupérisation qui est en train de se généraliser en Occident, etc., etc. Je crois que l'humanité est en train de se suicider. Et que font ces communautés, en général? Eh bien, elles essayent de trouver d'autres types de vie alternatifs, non suicidaires. Ce qui est quelque chose d'utopique, de très bien, de très beau. Le problème, c'est que pourquoi l'humanité est-elle en train de se suicider? Parce que l'humanité, elle est autiste. Elle ne pense qu'à elle. Et chaque groupe, chaque organisation, chaque multinationale ne pense qu'à elle. Il y a son logo, il y a son drapeau, il y a ses méthodes, etc. Que crève le reste de l'univers, il faut qu'elle, elle existe. Si on parle de communautarisme, en réalité, c'est aussi une forme d'autisme. Bon, les communautés qui essayent de vivre autrement risquent aussi de tomber dans l'autisme. Et donc, la communauté peut être à la fois une expérience extraordinaire, mais ça peut être également un enfer.
Ces communautés-là dont tu parles, est-ce qu'on peut les comparer à des arches de Noé qui vont essayer de se sauver alors qu'il y a l'inondation partout?
Oui et non. Oui et non. Parce que ces communautés, la différence qu'il y a avec une arche de Noé, c'est que l'arche de Noé est toute seule au milieu de l'eau, mais de l'océan. Alors que ces communautés ne sont pas du tout des monastères fermés à toute action et à tout mouvement social. Ce sont des gens qui souvent appartiennent au mouvement social, qui viennent dans ces communautés pour essayer de se revitaliser, se régénérer, et puis qui repartent ensuite dans le mouvement social, ou alors quelquefois des gens qui vivent toujours dans ces communautés, mais qui participent dans les mouvements pacifistes, dans les mouvements non violents, dans les mouvements contre la guerre en Irak ou en Afghanistan, et ainsi de suite, ou pour le mouvement écologique ou mille autres choses. Ce sont des communautés qui sont, beaucoup d'entre elles, sont extrêmement engagées dans le mouvement social, mais qui vivent alternativement. Donc je veux dire, il ne faut pas imaginer les communautés comme étant des ermites.
Tu mets les squats dans ce genre de communauté?
Je pense que les squats, dans la mesure où ils sont autogérés, dans la mesure où ils s'ouvrent aux mouvements sociaux, font partie de ces communautés.
Tu dis leur appartenance au mouvement social, mais à part ton livre, qu'est-ce qui est fait pour que le mouvement social sache que leur expérience porte quelques fruits? Donc est-ce qu'ils ont un souci de, justement, alors je ne sais pas si c'est d'émulation, mais de faire savoir, de partager? Parce que là, ils rentrent dans la communauté pour se ressourcer et vont dans le mouvement social, mais est-ce qu'ils y mènent le même combat que classique, ou est-ce qu'ils partagent cette expérience pour enrichir le mouvement social?
Ah ben les deux, n'est-ce pas? D'abord, il faut dire une chose, n'est-ce pas? On ne peut pas mettre ensemble toutes les communautés, parce que chaque communauté est unique et différente de toutes les autres. Il y a des communautés, par exemple, pour donner un cas, il y a une de ces communautés, un membre de la communauté a créé tout un réseau Internet dans lequel participent beaucoup, beaucoup de mouvements alternatifs qui s'appelle Rise Up, que peut-être tu connais et que peut-être certains des gens qui nous écoutent connaissent. C'est un site alternatif d'Internet qui a été créé et qui donc fonctionne avec tout le mouvement social, mais qui a été créé dans cette communauté.
Tu peux redonner le nom, c'est
Rise Up, R-I-S-E-U-P. Je crois que c'est rise.up, quelque chose comme ça. Et ça, c'est un exemple, n'est-ce pas? Bon, il y a des communautés, par exemple, il y a une communauté féminine qui invite régulièrement toutes les femmes des environs pour venir faire une fête de la femme et qui ont par conséquent des relations extrêmement nombreuses avec toutes les femmes de l'environnement. Il y a également, par exemple, des grandes célébrations à des niveaux régionaux ou nationaux où un certain nombre de groupes se retrouvent aussi. Et puis, alors, il y a des communautés qui sont plutôt des communautés errantes. Ça, je n'en ai pas parlé dans le livre parce que c'était un sujet un peu différent. Mais des gens qui se retrouvent tous les ans quelque part sur Terre, ça peut être n'importe où. Et ils se retrouvent là et vivent ensemble de manière festive et ils échangent énormément parce que je crois que le grand problème que peuvent rencontrer n'importe quel groupe, même des groupes de militants, quels que soient les groupes de militants, c'est de tomber aussi dans l'autisme puisque c'est un phénomène collectif de notre monde actuel, n'est-ce pas? Nous sommes une société autiste.
Et est-ce que tu donnes des exemples français?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, parce que je ne l'ai pas travaillé sur les exemples français. J'en connais un peu, mais pas assez pour pouvoir en parler de manière compétente. Mon domaine a été les États-Unis. D'ailleurs, c'est pour ça que si j'ai écrit ce livre aussi, c'est parce que bon, j'avais déjà écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire du mouvement anarchiste aux États-Unis et que c'était un aspect de cette histoire que je n'avais pas décrit. Il y en a d'autres encore que j'aimerais décrire d'ailleurs.
Et tu as des invariants, mais un petit peu au niveau du fonctionnement, des éléments qui vont les caractériser, justement, qui vont caractériser ces expériences.
Oui, alors pour moi, la première chose, le premier critère que je prends, c'est qu'ils ne cherchent pas à reproduire ce qu'ils voient dans la société, c'est-à-dire le modèle hiérarchique, le modèle pyramidal. Ce sont des sociétés qui sont fondamentalement égalitaires. Ça, c'est un aspect très important. Alors, leur système de décision est très variable. Ça, j'entrerai dans les détails dans la conférence de demain parce que c'est un peu complexe. Mais ils ont des systèmes de décision où tout le monde est partie prenante et où, par conséquent, ils essayent de régler également tous les problèmes de rapport de pouvoir, etc. Donc, pour moi, le côté important, c'est qu'une... cherche d'une part à ne pas reproduire le système hiérarchique et d'autre part, il cherche aussi à vivre autrement. Maintenant, cette manière de vivre autrement varie beaucoup selon les besoins des communautés. Il y a des communautés très diverses, certaines d'entre elles, je parle des communautés actuelles à propos, je ne parle pas de celles du 19e siècle ou du 20e qui étaient très différentes. Je parle des communautés actuelles, hein, pour toutes ces choses-là, même pour les questions précédentes. Ce sont des communautés qui sont extrêmement diverses, parce que certaines pratiquent, par exemple, le communisme au point de vue de l'argent. L'argent est réparti entre tous. D'autres ne le pratiquent pas du tout, mais organisent des rencontres entre elles, entre les gens, etc. Mais chaque membre a sa vie privée, individuelle, etc., ou chaque... famille, et il y a des communautés par exemple qui se posent la question de savoir si elles vont accepter des enfants ou pas, et ainsi de suite. Mais d'une manière générale aussi, un autre trait commun à toutes ces communautés, c'est qu'elles sont extrêmement ouvertes et extrêmement accueillantes, mais qu'en général, les communautés qui tiennent sont celles qui demandent un stage qui peut aller jusqu'à une année ou plus avant d'être admis dans la communauté, et c'est très sage.
Justement, tu peux nous donner des âges de ces communautés, combien de temps ont-elles duré, depuis combien de temps durent-elles
et... La communauté qui dure depuis le plus longtemps que je connais et qui est actuelle, elle date des années 1970, donc elle a maintenant presque 40 ans.
D'accord.
Ce qui est pas mal, parce que c'est le temps d'une génération. C'est une communauté qui a environ 150 membres et il y a tous les âges. Maintenant, il y a des communautés qui sont beaucoup plus petites et il y a des communautés qui durent très peu de temps aussi, n'est-ce pas? Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus, mais c'est tout à fait normal et logique. Parce que il n'y a pas la volonté de créer des institutions éternelles, parce qu'à ce moment-là, on devient prisonnier de l'institution et il faut la défendre à tout prix, malgré ses défauts, etc. Ce qui est très important, n'est-ce pas, c'est la qualité de l'expérience. C'est un peu, dans la vie, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? Quelqu'un qu'on a aimé très profondément et très intensément, fût-ce peut-être pendant très très peu de temps, ça nous marque pour la vie. Et c'est aussi important que quelqu'un avec qui peut-être on vit pendant des années s'en s'aimer vraiment.
Oui.
Enfin, je ne sais pas, moi, sur cette question de la durée, je me demandais, c'est l'effet... Bon, ça rejoint cette question. Est-ce que le temps n'érode pas le projet initial? Et est-ce que il n'y a pas une normalisation, entre guillemets, c'est-à-dire un retour dans ce qui est la logique commune de la société autour? Ou est-ce que voilà, est-ce que les communautés qui ont duré le plus longtemps ont su garder leur projet
ou pour être encore plus méchant, qu'est-ce qui peut ne pas marcher dans une communauté?
Beaucoup de choses.
Beaucoup mais encore.
Beaucoup de choses ne peuvent pas marcher. La première, évidemment, qui a été souvent la plus fréquente, ça a été la répression de l'environnement. La police qui vient, sous prétexte qu'il y a eu ceci ou cela, des menaces, etc. Bon, ça, c'est des choses, par exemple, bon, il y a eu les bulldozers. Parce que bon, le problème est toujours le même, n'est-ce pas? C'est celui de la propriété des terrains, la propriété des terres, etc. Lorsqu'il y a un propriétaire qui réclame, il a accordé peut-être d'abord tolérer des choses, et puis change d'avis, ou ses héritiers changent d'avis. Bon, lorsque la communauté arrive à se créer, bon, il y a toujours un premier problème qui est celui de comment elle va survivre et s'autofinancer. Alors là aussi, bon, c'est très complexe, ça varie beaucoup selon les types de communautés qui se créent. Mais il y a ce problème des finances qui est quand même très important. Les trois premières années d'une communauté sont décisives. Une communauté qui arrive à passer les trois ans, en général, arrive après à continuer. Mais par exemple, une communauté qui s'installe dans la campagne se trouve devant des difficultés importantes, n'est-ce pas? Parce que bon, il faut attendre le temps de la récolte. En attendant, qu'est-ce qu'on va manger? Il y a tous les problèmes économiques qui peuvent se poser, et puis il y a les problèmes aussi de conflits de personnes qui peuvent arriver. Il y a également les conflits qui peuvent arriver parce que la nouvelle génération, alors ça c'est dans la communauté qui dure beaucoup plus longtemps, qui dure deux générations, ben la nouvelle génération va remettre en cause les communautés. Le mouvement social aussi peut remettre en cause les communautés, c'est-à-dire que par exemple, arrive une mobilisation forcée de tous les jeunes pour en commencer une nouvelle guerre, ben les communautés risquent de se dissocier à ce moment-là parce que tout le monde veut aller lutter contre cette guerre et ainsi de suite. Je veux dire, elles sont très ouvertes sur le mouvement social. Je me rappelle lorsque j'avais travaillé sur l'anarchisme aux États-Unis, j'avais travaillé sur la première internationale, l'internationale du mouvement ouvrier, il y avait en particulier donc des groupes américains. Et j'étais tombé là sur un groupe américain qui se trouvait dans le Wisconsin, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ces gens-là ont fait lorsque l'association internationale a été dissoute? Et j'ai pu regarder, j'ai retrouvé les traces de chacun des membres, et bien ils étaient tous autant militants qu'avant, mais ils faisaient autre chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le culte de l'institution comme telle. Mais le mouvement social aux États-Unis est très très différent du mouvement social français à ce point de vue-là. En ce sens qu'en France, nous avons des traditions, on se rappelle la guerre de 14-18, on se rappelle la Révolution française, on se rappelle le mouvement pacifiste depuis une époque donnée, et ainsi de suite. On se rappelle ce qui s'est passé, il y a toutes les traditions de l'anarchisme et des autres mouvements. Là-bas, non, tout est toujours extrêmement fluctuant, c'est un peuple qui n'a pas d'histoire, en un sens, qui vit dans le présent continuel, et qui, par conséquent, est en perpétuel recommencement. Donc, lorsqu'une communauté arrive à durer un certain temps, c'est souvent un bon signe, parce que c'est une communauté libertaire. Par contre, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour qu'une communauté qui est totalement fermée de se maintenir plus longtemps.
Et le sexe?
Alors, le sexe, ben, c'est très variable selon les communautés, n'est-ce pas?
Parce que c'est un facteur de dissociation, de...
Ça dépend.
Non?
Ça dépend. Bon, il y a eu, dans les années 60, beaucoup de jeunes qui se sont rencontrés et qui étaient en fait, bon, c'était une espèce de crise d'adolescence plus ou moins prolongée. Souvent, c'était des couples qui avaient des problèmes entre eux et ça a permis quelquefois à des couples de se dissocier et de se reformer autrement avec d'autres personnes à travers les communautés. Ça, c'est sûr que la relation, la jalousie et les choses comme ça, au point de vue sexuel, ça joue toujours un rôle lorsque les groupes sont vivants ensemble, n'est-ce pas? Maintenant, c'était des communautés qui laissaient peu de place à la vie privée. Les communautés actuelles, c'est rarement le cas. Elles ont en général, il y a des espaces totalement autonomes, que ce soit pour les individus ou que ce soit pour les familles. Maintenant, comme je disais, il y a des très grandes variétés. Il y a par exemple une communauté de lesbiennes qui sont beaucoup plus ouvertes de ce point de vue-là à recevoir du monde, etc., mais uniquement féminin, bien entendu. Mais alors, elles se sont posé le problème de savoir, par exemple, si elles allaient ou non recevoir des transsexuels, par exemple. Et je ne connais pas la réponse.
Donc, tu cibles essentiellement quand même la notion de communauté. Dans ces expériences, ça s'appelle donc des communautés, c'est des gens qui vivent plutôt 24 heures sur 24 ensemble. Des expériences... par exemple, puisque là, t'es invité par une librairie autogérée, ce genre de projet, ça rentre pas là-dedans. C'est pas une utopie, faire vivre, ou un jardin qui serait autogéré, ça rentre pas dans ce genre dans ton étude.
C'est-à-dire que ça peut être aussi une expérience utopique, et je crois que chacune de nos vies peut être utopique de toute façon, mais ce que je pense, c'est que, ce ne sont pas toutes les communautés. Ils sont en ville, mais qui se sont arrangés pour habiter proches les uns des autres, qui se sont multipliés les rues pour avoir leurs occasions de rencontre, et qui font par exemple simplement un repas par mois, tous ensemble. Mais qui, par contre, résolvent leurs problèmes communs ensemble. Et ce ne sont pas forcément des problèmes économiques, mais enfin, ça peut l'être aussi.
On va découvrir au cercle Jean Varuet que nous sommes communautaires, puisqu'on a au moins un repas collectif tous les mois.
Mais je crois que le problème, n'est-ce pas, un des aspects de ces communautés, c'est qu'il correspond au fait que dans nos sociétés contemporaines occidentales, il n'y a plus rien entre l'individu et la société en général, ou plus exactement l'État, que nous sommes devenus des individualités extrêmement isolées. Les liens de parenté se sont beaucoup dissous pour de nombreuses raisons. Les liens de quartier ont été détruits par l'automobile, parce qu'il suffit d'avoir une rue où tout d'un coup il y a la grosse circulation, les enfants ne peuvent plus jouer dans la rue, les voisins ne se rencontrent plus. Tout devient très impersonnel. Je veux dire, nous sommes donc dans une société où l'individu est tellement isolé qu'il cherche à recréer des communautés. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit apparaître différentes formes de communautarisme, d'identification à des groupes, etc.
Oui, j'aurais... Bonsoir. J'aurais voulu revenir sur l'exemple de la communauté qui perdure là depuis les années 70, et de la façon dont elle pouvait faire reculer la menace de s'institutionnaliser, enfin de vouloir se pérenniser à tout prix, et donc de pouvoir
Mais vouloir à tout prix s'institutionnaliser, voilà, revenir. Comment peut-elle arriver à faire reculer cette menace ?
Eh bien, d'abord, il y a toujours quand même dans cette communauté-là, énormément de ce qu'on appelle de rotation des gens, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent là quelquefois et qui ne restent pas tout le temps, n'est-ce pas ? Bon, il y a des noyaux qui restent de manière beaucoup plus permanente, mais ce qui se passe, c'est que cette communauté, d'une part, suit très très profondément l'actualité, elle est très très ouverte sur l'actualité, c'est elle d'ailleurs, peut-être à cause de son ancienneté, qui a créé une fédération des communautés égalitaires. Elle a donc un site web qui lui permet d'entrer en contact avec les autres et elle suit de très près. Bon, alors d'autre part, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont responsables tout le temps durant les 30 années. En principe, les gens, alors ils nomment 3 responsables, chaque responsable est nommé seulement pour 3 ans. Et naturellement, chaque année, il y en a un, de manière qu'il y en ait quand même 2 autres qui assurent la continuité. Et le responsable, on lui pose des tas de questions avant sur les projets qu'il a, sur la manière qu'il peut avoir, par exemple, pour régler les conflits, quelle est son expérience là-dessus, quand il y a des conflits entre personnes, etc. Je veux dire, la communauté lui pose des tas de questions, on discute des projets, alors la communauté également se divise, alors il y a des gens, par exemple, tu dis, tiens, mais il y a là peut-être quelque chose à faire de ce point de vue-là, tu vas mettre une affiche, on va faire une réunion, et puis on va décider de se lancer peut-être, ou de créer un groupe qui va se lancer dans une activité donnée pour quelque chose qui semble important. Donc il y a, et puis bon, la vie change hein, tout le temps, n'est-ce pas ? Et d'autre part, la vie politique change aussi beaucoup, les enfants grandissent, donc il y a tout le temps des choses nouvelles qui se passent. Hein. Mm-hmm. Ce n'est pas comme une communauté de 150 personnes qui sont nées là et puis qui vont vivre là pendant 40 ans. C'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de brassage et il y a beaucoup de mouvements. Maintenant, il y a aussi des permanences et puis alors il y a des crises. Les crises aussi sont quelque chose qui peut être très bénéfique. La crise, c'est aussi une opportunité.
Ronald, puis-je être indiscret ?
Oui.
Est-ce que tu as déjà participé ou eu envie de participer à une communauté ?
Oui, j'ai eu envie. Je suis allé, j'ai visité plusieurs communautés, et il y en a une qui est en France, mais que je ne peux pas évidemment nommer ici.
On peut, nous.
Non, mais c'est une communauté qui est du côté d'Alès. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, c'était en plein été, et j'ai eu tellement, tellement froid que j'y ai renoncé, n'est-ce pas ? Et je suis un grand frileux, je dois dire. Hein. Même en plein été, là, cet été où il a fait tellement chaud, je dors quand même encore avec un édredon.
oui, c'est étonnant. Hein.
De participer pendant un temps limité, j'aurais accepté. Mais je ne me vois pas personnellement vivre dans une communauté parce que je suis, disons, très tendance papillon.
D'accord.
Peut-être pour revenir juste à ce que disait Régine, est-ce que samedi, tu parles, donc tu détaillerais les systèmes de décision, est-ce que tu aborderas la question de la résolution des conflits aussi ? Comment les différentes...
Un petit peu, mais pas dans le détail.
C'est dommage, parce que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse.
Et oui, non, mais la manière dont les décisions sont prises donne déjà pas mal d'éléments là-dessus. Mais je n'ai pas étudié bien cette question de la résolution des conflits. Mais ce que je peux dire quand même, c'est qu'il y a des gens aussi qui se spécialisent pour ces questions-là, dans ces communautés.
Je sais que dans les groupes non-violents, il y a des gens qui ont vraiment étudié la question.
Oui, tout à fait. Mais là, vraiment, honnêtement, je n'ai pas réponse à tout, je suis désolé.
Et une dernière, est-ce que je dis une dernière, enfin pour moi, est-ce que les expériences, bon, il y a eu des mobilisations qui ont donné lieu un petit peu à ce genre d'expérience, les villages, comme le village autogéré alternatif anti-guerre qui avait eu lieu à Nancy il y a un peu moins de 10 ans.
Le Vague.
Le Vague, voilà. Donc il y a eu des vidéos. Est-ce que a priori, ça correspondrait à une définition de ces communautés, mais temporaire?
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, dans la mesure où il n'y a pas de volonté de domination, de manipulation, dans la mesure où ces communautés sont vraiment égalitaires, dans la mesure où ces communautés ne tombent pas dans la routine, mais cherchent à vivre autrement, à être créatifs, parce que un des grands problèmes de tous les mouvements alternatifs, et surtout des mouvements alternatifs politiques, c'est qu'ils s'alignent beaucoup trop sur l'extrême gauche, dans la mesure où il s'agit simplement de dire non et de condamner et de critiquer. Il ne s'agit pas de créer. Or, pour moi, l'utopie, c'est quelque chose qui doit être créatif. Lorsqu'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'utopie.
Voilà, je bois tes paroles comme du petit lait. Je suis entièrement d'accord.
Voilà. Je pense qu'il y aurait beaucoup de questions. Éventuellement, on va passer une musique si jamais il y a des auditeurs qui ont une ultime question. Mais sinon, on va inviter les auditeurs, on en reparlera tout à l'heure, à te retrouver samedi. Donc on rappelle, c'était Ronald Clegg qui était, tu étais avec nous pour parler de Utopie américaine, expérience libertaire du 19e siècle à nos jours, et tu seras samedi à 17h, 7 rue du Muguet à l'Athénée Libertaire, invité par la librairie.
Voilà. On aura encore des questions à te poser, Ronald, sans doute.
D'accord. Là tout à l'heure ou bien samedi?
Samedi.
Ah, d'accord.
À moins que quelques auditeurs nous appellent.
Bon, est-ce que je raccroche ou je reste à écouter?
Tu restes peut-être pendant la musique.
Oui, et... d'accord. D'accord. Une chose qui serait peut-être intéressante aussi, c'est de signaler le site web.
Oui.
Recherche sur l'anarchisme.
D'accord. Ronald, quelle est la question que tu aurais voulu qu'on te pose et qu'on a oublié de faire?
Je ne sais pas, non, parce que je n'ai pas de questions que je préfère qu'on me pose. Je préfère répondre aux questions que les gens se posent eux.
D'accord. Merci.
Mais je t'en prie.
On prendra le site web après la musique.
Oui, je reste à écouter. Hein.
D'accord.
O'Sullivan, il rentra pas ce soir. O'Sullivan, O'Sullivan, il a les idées noires. O'Sullivan, O'Sullivan, 6 heures comme tous les soirs. O'Sullivan, O'Sullivan, il a les idées noires. Noir comme les veines de Dublin, qu'on traverse sans fin, pour un demi-penny, pour étancher l'ennui. Noir comme la haine à des rires, les larmes de Molly qui font à l'infini des rivières à nourrir. O'Sullivan, il rentra pas ce soir. O'Sullivan, O'Sullivan, il a les idées noires. O'Sullivan, O'Sullivan, accoudé au comptoir. O'Sullivan, O'Sullivan,
il a les idées noires.
Noir comme la bière lorsqu'elle coulait jusqu'à Liverpool,
en emportant la foule
qui vacille et qui saoule.
Noir comme le sang de la terre, en connoctant l'enfer, réchauffe les chaumières,
engourdi par l'hiver.
Avec des boires,
au Sullivan, au Sullivan,
il a les idées noires,
au Sullivan, au Sullivan,
accroché au comptoir,
au Sullivan, au Sullivan,
il a les idées noires,
noir comme les prisons de pierre, des révolutionnaires qui plantent un drapeau vert pour marquer l'Angleterre.
Noir, les nuages qui au loin se rejoignent d'un point,
aujourd'hui ou demain, il pleura, ce n'est rien.
Sur la clé des ondes 90.10 et vous écoutez l'émission Achaïra, un jeudi sur deux, animé par le cercle Jean Barbier de la Fédération anarchiste. Dans cette première partie d'émission, donc, nous avons réalisé l'interview de Ronald Craig, qui sera présent samedi à l'Athénée Libertaire à partir de 17h pour nous parler de son ouvrage « Les utopies américaines ». Expérience libertaire du... Ça ne veut pas dire que le livre de Ronan n'est pas d'actualité.
On a quand même le site web à donner, non?
Oui, ah voilà, oui. Donc c'est Raforum, R-A-F-O-R-U-M, point info.
Donc ça c'est un site
INFO, donc,
hein. Pour avoir des informations.
Voilà, et qui est en 10 langues dont le chinois.
Ouais.
Mais bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'auditeurs sinophiles.
Plus que tu crois peut-être.
Ah. Avec internet.
À Montpellier, il y a beaucoup de chinois.
Oui. Alors si vous voulez, avant de...
Montpellier.
Ah bon.
Bon, on rappelle donc aller sur ce site pour se renseigner sur l'œuvre de Ronald Craig et
les travaux qui sont hébergés par ce site. Donc c'est Raforum, R-A comme le début de recherche sur l'anarchisme, Raforum, R-A-F-O-R-U-M point info, I-N-F-O. C'est tout, il ne faut pas en mettre plus.
D'accord. Flora, c'est...
Alors bon, c'était avant de lancer donc les différents points d'actualité qu'on souhaite traiter. Ben, je voulais vous proposer un édito, voilà, qui va donner l'ambiance peut-être. Le pire est toujours possible. Lorsque la crainte de l'uniforme tient lieu de morale civique, les libertés fondamentales sont en grand danger. Lorsque la vue des policiers ou des gendarmes suffit pour calmer les ardeurs contestataires d'une population jusqu'alors peu incline à tout accepter, il convient de s'inquiéter de l'avenir des institutions démocratiques. Lorsque les plus déterminés se voient contraints de marcher droit, cela porte un nom, contrôle social. Lorsque l'on commence à se méfier, entre collègues de travail, pour savoir lequel risque de passer au tourniquet du licenciement, la solidarité n'est plus qu'un vague souvenir. Lorsque l'on soupçonne son voisin de palier de manger le pain de la police, il est certain que la suspicion s'est installée en lieu et place de l'amitié ou de la simple courtoisie. Sommes-nous déjà arrivés à ce niveau de décadence ? Est-il possible d'avoir oublié à ce point les leçons d'un sinistre passé ? En un temps où les forces de l'ordre disposent de plus en plus de pouvoir, il serait utile de rappeler ce que pouvait représenter la police triomphante à une époque où il n'était pas question de répliquer à ses ordres. Sauf à risquer un voyage vers des lieux d'où l'on n'était pas certain de revenir, sauf à risquer un voyage vers des lieux d'où l'on n'était pas certain de revenir. Bien sûr, il s'agit là d'un passé heureusement révolu, mais les mauvaises manières policières envers les parias n'ont pas varié. Allez donc demander à une famille placée en centre de rétention administrative avant son expulsion si elle est satisfaite de son sort, car la porte de sortie ne conduit plus à Auschwitz. Et c'est signé Maurice Rachfuss. Voilà, bon, je vous avais dit que c'était pour donner une certaine tonalité, n'est-ce pas ?
Bon, moi je veux bien continuer dans le ton, très brièvement. Donc, quelques jours après les événements de Poitiers, dont les médias se sont bien régalés, le ministre Hortefeux a publié un décret, exactement le 16 octobre 2009, qui porte création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique. Donc le ministre de l'Intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui s'intitule « Prévention des atteintes à la sécurité publique ». Son but, recueillir, conserver et analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver, d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collective, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives. Article 2. Peuvent être enregistrés dans le traitement les catégories de données à caractère personnel suivantes: motif de l'enregistrement, information ayant trait à l'état civil, nationalité, profession, adresse physique, numéro de téléphone, adresse électronique, signe physique particulier et photographie, titre d'identité, immatriculation des véhicules, information patrimoniale, activité publique, comportement et déplacement, agissement susceptible de recevoir une qualification pénale. Et enfin, personne ayant entretenu ou entretenant des relations directes et non fortuites avec l'intéressé. Bon, je ne continue pas. Donc, ce décret, par rapport à Edwige, bon, il en rajoute une couche, quoi, simplement. Et on peut dire qu'une fois de plus, un membre du gouvernement a réagi à chaud à un événement. Il a profité des événements de Poitiers pour pondre un décret... un décret qui va nous mettre sur fiche, qui limite les libertés publiques et qui est donc à vocation essentiellement répressive. Voilà. Commentaire ? Non.
Ben on avait bien dit qu'Edwige reviendrait sous une autre forme. Voilà.
C'est le new Edwige.
Donc là, il y a deux décrets, quoi.
Non. Non, là j'ai lu c'est le décret du 16 octobre 2009.
D'accord.
Voilà.
Bon, mais qui...
Il y a eu deux décrets quand même, mais bon.
Il y a eu deux décrets, mais donc tu en as parlé que d'un. Oui.
Oui, il y a eu deux décrets, voilà. Mais l'un à la suite de l'autre.
C'est Edwige qui a fait des petits, quoi.
Il y en a un, c'est les préventions des atteintes à la sécurité publique, et l'autre, c'est relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique. Les nuances.
Et ce qui est aussi à noter peut-être, c'est cette façon de créer des décrets à chaud sur des faits divers. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui se passe si on parle, par exemple, de la proposition de loi concernant la castration chimique. Hein ? C'est bien parce qu'il y a eu à nouveau une affaire que c'est saisi par nos politiques. Et d'ailleurs, il y a eu une lettre ouverte qui a été faite dans ce sens par une victime de viol répété, mais qui s'insurge sur cette exploitation des faits divers pour, sur le dos des victimes, créer des lois ou des décrets qui en fait ne sont que des opportunités politiques. Voilà.
Il y a une citation que j'ai entendue écouter la télévision, et il y avait un grand philosophe, à mon sens, qui s'appelle Romain Bouteille, qui est intervenu à un débat le soir sur la 3 et qui dit « Plus il y a de lois, plus chacune est faible. » Et aujourd'hui, la logique est de multiplier le nombre de lois chaque fois qu'il y a un anilinéa dans les faits divers. Et donc, chaque loi devient de fait un fait divers aussi.
Mm-hmm. Oui,
voilà. Ou un diverticule. En fait.
Bon, on poursuit comment ?
Moi, j'ai un nano-sujet, si vous voulez.
Un nano-sujet.
On a été sollicité par une personne sur le fait que Bordeaux allait être consulté sur la question des nanotechnologies courant novembre, alors que cela vient de commencer à Strasbourg. Et donc, je suis tombé sur deux réactions. Alors, déjà, savoir ce que c'est ce mot qui est né dans les laboratoires, ou les nanoraptoires, essentiellement grenoblois, d'après ce que j'ai compris, ça s'est disséminé. Et donc, au millimètre, c'est un million.
C'est infiniment petit.
Voilà, encore plus petit. Donc, des particules qui deviennent des particules. Donc, certains ont élaboré une critique en rapport avec, d'un côté, l'industrialisation, la dissémination, qui était proche d'une critique de celle des OGM. Mais l'enquête a continué. Et donc là, on est face à deux réactions. D'un côté, j'ai trouvé une réaction d'un parti politique qui est les Verts, qui se félicite de l'arrivée du débat. Il fallait que cette recherche fasse l'objet d'un débat public, donc qui aura lieu 17 débats, du 15 octobre 2009 au 23 février 2008, avec des tables rondes, et donc eux participent en produisant des rapports, font des débats, et donc ont des revendications, puisqu'ils demandent que ces débats continuent, pour éclairer les élus et les citoyens, et ils pensent que ces débats permettent sont la prémisse de ce que les citoyens puissent s'emparer de ces problématiques, et puis ils mettent quelques mesures de moratoire, de principes de précaution, et puis quelques questions sur le financement de la recherche, et le fait que s'il y a des recherches pour faire des dégâts, il faut un budget équivalent pour réparer. Voilà, donc on est d'accord pour que l'on...
Pratiquement, quels sont les dangers de la nanotechnologie ?
Alors, les dangers, a priori, sont ceux, justement, de ça. Un petit peu les parallèles aux OGM constatés, c'est la dissémination, la question à ces dimensions-là, ce qui faisait le corps humain c'est sa enfin, la limite physique du corps humain, c'est sa paroi, sa peau, et qu'elle était plus... Bon, c'est très bien qu'on a des maladies, des choses comme ça, mais c'est parti. Mais en général, la technologie, elle était destructrice quand c'était des balles. Mais là, on s'en apercevait, en tout cas. Quand un corps intrusif rentrait... et là, ces nanotechnologies peuvent rentrer dans le corps, se disséminer, sans que, a priori, on les détecte. Donc c'est cet élément-là qui met un certain nombre de réticences à les laisser se développer. Donc on voit que d'un côté il y a la surveillance, et que donc cette surveillance peut se faire aussi à son insu à travers ces nanotechnologies. Donc de l'autre côté, un point de vue qui est développé dans une revue comme CQFD, c'est que faire participer au débat, c'est faire accepter. C'est le processus de l'acceptation, puisqu'on associe le citoyen à la décision, et en tout cas qu'il soit d'accord ou non, ça sera un processus dans lequel il aura été acteur. Et donc les questions, c'est quelle est eux, ils posent la question de l'utilité de ces réunions, alors que de fait la recherche est engagée depuis longtemps et que l'essentiel du dossier est bouclé, que des investissements énormes ont été mis en avant, et que donc si ce n'est que maintenant qu'il s'agit de passer à la phase de commercialisation, donc du revenu sur investissement, on entend bien que tous les moyens seront donnés par les forces publiques et politiques de ce pays pour le faire accepter. Donc ça, c'est sur c'est plus une critique sur la question du débat. Pour aller plus sur le fond des dangers, il y a un site encore qui a été développé par un groupe qui travaille depuis longtemps, qui s'appelle Pièce et Main d'œuvre, et qui a donc fait un site www.nanomonde.org. Moi, ce que j'ai compris, je ne suis pas expert parce que c'est quand même des domaines... on s'aperçoit qu'il y a des sujets qui peuvent être expliqués simplement, mais où on a des difficultés à appréhender, parce que c'est pas simplement les mots qui sont difficiles à aborder, c'est des fois les concepts. On a du mal à s'imaginer à l'intérieur de sa cellule, et donc de le conceptualiser, quoi. C'est un petit peu...
Exactement. On avait traité le sujet, oui, hein, à partir de pièces et mains d'œuvre. Et bon, alors, comme dit Philo, c'est quand même des concepts dont on a peu de représentation, mais ce dont je me rappelle comme ça, hein, c'est que d'une part c'était irréversible, c'est-à-dire qu'on va dans l'infiniment petit, il y a une modification profonde. Je ne peux pas avoir des mots plus justes, mais il y avait un état de irréversibilité. Et deuxième point, ça touchait la question des utilisations. C'est-à-dire que ce dont on nous parle, c'est un petit peu la vitrine. Ça va concerner les nanotechnologies dans le monde médical. Or, ce qui mettait en avant, c'est que le pourcentage est moindre par rapport à la recherche, et que la recherche est essentiellement utilisée en matière militaire, ouais, et
sécurité intérieure.
Voilà. Donc c'est encore mettre des technologies très avancées au service du contrôle.
Vous ne pourriez pas donner des exemples précis
de ce qu'est une nanotechnologie?
Est-ce qu'en buvant mon café, je vais pouvoir ingurgiter par mes gardes je sais pas, un truc donc très petit dans mon corps qui va être, où on va pouvoir me contrôler, c'est ça
En tout cas, c'est ce que l'on imagine que les chercheurs fous dans leur laboratoire ont pu imaginer, oui.
Par exemple, au niveau militaire, par exemple, il me semble qu'ils ont essayé de créer une intelligence artificielle qui guiderait des soldats ou des choses comme ça. je ne peux pas en dire plus.
Là, il sur le corps humain,
oui,
il y a des choses.
Les cosmétiques sont concernés par les nanotechnologies.
Également. On a suivi un débat, la pièce et main d'œuvre, tu vois, on est quand même assez...
Mais les cosmétiques, je m'en fous.
Mais d'accord, mais...
Non, c'est au niveau de...
Il y en a beaucoup, beaucoup, hein, déjà dans les produits de consommation.
Les médicaments,
les peintures. Même, l'alimentation, même en... Non ouais. Bon, là, moi, je n'ai pas préparé le sujet. Mais je sais qu'à l'époque, on avait déjà travaillé sur les nanos et que de toute façon, les utilisations sont quand même moindres en matière médicale. Or, c'est ce qui est mis en avant. Mmh. Et par contre, très peu... nommé dans des domaines qui encore une fois sont des investissements en plus.
Ce qu'on sait, oui, c'est qu'il y a un énorme investissement des gouvernements sur les nanotechnologies. Bon, par exemple, dans le triangle Lyon-Grenoble et dans le nord des Alpes, et qu'ils sont prêts à tout pour mettre en place. Des structures ultramodernes de recherche. Il y a une grosse alliance entre les politiques et les militaires de la défense nationale.
Alors de mémoire, je crois qu'il y a 3 pôles de recherche au monde, hein, qui sont aussi, un en Australie, un aux États-Unis, et donc le troisième, c'était Grenoble.
Je vais continuer à jouer les naïfs. Philo disait que on a franchi maintenant on a franchi la frontière de la peau, mais il y a longtemps, puisqu'on met des cœurs artificiels, des hanches artificielles et des veines artificielles, donc
visible.
Le corps on l'a ouvert.
Enfin, c'est l'insu. Voilà.
D'accord, oui. Maintenant on peut introduire des choses à l'insu du plein gré des gens. Oui, une puce.
L'élément un petit peu donc qui est un petit parallèle, c'est la question de cette dissémination de ces microparticules qui peuvent à un moment donné se retrouver. Donc la question de aujourd'hui, si on a un cœur artificiel, on peut peut-être le changer ou l'enlever. Ces microparticules,
on maîtrise plus.
On maîtrise plus. Peut-être que le producteur est capable, lui, de maîtriser la sienne, mais on n'est pas à l'abri qu'un autre producteur ait introduit ces nanoparticules et que et on est toujours là dans ces logiques un petit peu les mêmes que celles des OGM, c'est-à-dire on le fait parce que sinon les autres vont le faire. Donc il y a des logiques de marché qui lancé pour cette année pour le plan Nano Innov. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent derrière, mais pour la ministre Valérie Pécresse, elle soulignait le caractère crucial de ce plan qui permettra de contribuer de manière significative à l'effort de relance au regard de l'opportunité exceptionnelle que les nanotechnologies représentent pour l'industrie française. Donc, on voit que c'est pas la nécessaire, on n'ira pas répondre à un besoin, c'est que la logique de la recherche, c'est de produire de nouveaux territoires et il s'agit de les rentabiliser. On va trouver un débouché, un marché pour ces recherches. Enfin,
si j'ai bien compris, ton intention ce soir, Philo, c'était d'attirer l'attention sur ces débats participatifs, sur des questions qui sont déjà traitées. Et dans ce cas, vu qu'on a soulevé la question aujourd'hui, on pourrait peut-être travailler, se remettre à jour sur sur notre prise d'information concernant les nanotechnologies, et à ce moment-là, peut-être compléter en termes de contenu ce qui a été abordé une forme.
La date du débat de Bordeaux.
Une forme illusoire.
Le 3, 3,
le
3
novembre.
Le 3 novembre.
Et donc il y a un site qui s'appelle www.debatpublic-nano.org où il y a le calendrier et les débats. Bon, j'ai été dessus, j'ai pas bien compris leur site, mais bon. Mais j'ai du mal à chercher, vous allez trop vite.
Donc quand j'entends tout ça. Bon, l'être humain est très curieux, par exemple, de connaître l'infini de l'univers, hein, la macro connaissance, mais on est tout autant curieux d'aller vers l'infiniment petit. Donc ça me paraît difficile de s'opposer à ça. Il y a une curiosité humaine inextinguible.
Oui, mais après, bien sûr, c'est-à-dire au niveau nano, ils ont découvert que les propriétés physiques de certains corps changeaient. C'était très intéressant techniquement, au niveau de la résistance des matériaux, des choses comme ça. Mais bien sûr, ils ont poussé plus loin. Alors après, bon...
voilà. C'est pas tant le problème de la recherche, c'est peut-être encore une fois, et c'est ouais. souvent ces désutilisations qui ouais. sont imaginées. Alors, de plus, à l'insu hein, de ceux qui, ouais. qui sont quand même concernés, c'est-à-dire dont on fait partie. Hein.
Voilà, déjà, c'est sous le sceau du secret, et ensuite, il n'y a aucun contrôle. Sur ce qui est fait de ces découvertes, sur les orientations de la recherche. Il n'y a pas de débat, il y a encore moins de contrôle.
Tellement sous le sceau du secret que bon, les personnes qui ont voulu s'immiscer dans ces recherches, qui ont voulu participer au débat de ces messieurs quand a été ouverte ce pôle hein,
Minatech,
voilà. À Grenoble.
Il y a eu un état de la ville était en état de siège. Et,
voilà, ça s'est fait.
Ça veut bien dire.
Il y a des choses dont on n'a pas la maîtrise parce qu'on n'est pas informé, que quand on va chercher l'information, on prend des risques.
Ce qu'on peut dire, c'est bon, c'est vrai qu'après le sujet que l'on a traité avant, on ne peut pas dire l'expérimentation ne nous intéresse pas. Le problème, c'est ouais. qu'on peut dire qu'il y a de fait dans cette société un décalage entre ce qui est la recherche pour faire progresser les profits qui est un fort déficit pour faire progresser ce qui est la dimension humaine, les relations donc de ce côté-là, et qu'on en revient à l'adage un petit peu « science sans conscience ». Et alors, ils peuvent toujours nous dire qu'ils ont conscience, mais notre société nous montre que juste après les crises financières que l'on a connues, que ce qui est le moteur aujourd'hui de la société, c'est cette recherche du profit, et que donc à ce moment-là, plus aucune barrière ne peut y résister. Donc c'est à ce titre-là, je pense que l'on a des raisons d'être réticents.
En tout cas, de vouloir comprendre et voilà. être informé aussi. Hein. Sur les nanos, tu veux...
Mais moi, par rapport aux événements de Calais, c'est à partir d'un article qu'a écrit Maurice Raffius sur Le Monde Libertaire du 15 au 21 octobre, par rapport à la République française. Voilà. Donc la Ve République, comme ses devancières, utilise des méthodes répressives. Remontant dans le temps, la Première République a connu la terreur en 1794, la deuxième a perpétré les fusillades d'ouvriers parisiens sur les barricades en 1848 et en 1871, et en 1871 a massacré les communards. Les mêmes massacreurs sont les pères fondateurs de la Troisième République qui ont ouvert en 1939 les camps de concentration pour les vaincus de la guerre d'Espagne et les ressortissants allemands vivant en France, et ont raflé sous Pétain. La Quatrième République, née de la résistance, conduira des guerres postcoloniales répressives. Revenons à la Cinquième République. Faute de guerre, elle s'est inventée un ennemi intérieur, celui qui vient d'ailleurs, a créé des centres de rétention administrative pour y enfermer les futurs expulsés, et à ces centres, elle a ajouté des zones d'attente dans les aéroports, les grands ports et les gares, dans des conditions d'hygiène déplorables où les droits sont régulièrement bafoués. La France, jadis terre d'asile, de liberté et pays révolutionnaire, exerce une politique bassement nationaliste, barbare, comme on peut le voir à Calais. Sachant que c'est de l'actualité toute fraîche, il y a un charter qui est parti hier avec des Afghans dont trois qui étaient français et une vingtaine d'anglais. Voilà.
D'accord. Bon, on fait une petite coupure quand même.
Juste pour revenir, il y avait bien l'agroalimentaire avec Unilever et Nestlé, déjà tristement connus dans les chercheurs et producteurs de nanotechnologie.
D'accord, vous êtes bien sur la clé des ondes.
Je slame sur le fil du rasoir. D'un côté, la reconnaissance de la conformité. De l'autre, la marmite sur le feu d'une pensée chloroformée.
Bah.
Je suis un mouton, mais je veux me démarquer.
Pas exprès.
Seulement la liberté d'être soi-même.
Pas tendu.
Ni affublé d'un signe ostentatoire de reconnaissance.
Affranchi.
Simplement un humain pour que vive l'indépendance dans ses chemins tout tracés.
Alors, je songe.
À ce plus de la différence.
Car elle,
elle fait référence. Souvenez-vous du résultat.
Alors,
ce n'est pas le moment d'être optimiste. Chaque période, c'est négationniste. En bande de joueurs nationalistes. Parce qu'enserré dans ses rouages du temps.
Alors,
ce n'est plus le moment des défilés.
Celui des tapes dans le dos.
Des discours appris par cœur.
Pas l'heure d'agir à la légère.
Pas l'heure d'avaler sa colère.
De compter les blessures.
Souvenez-vous du résultat.
Alors,
de venir ici, slammer dans un murmure, trouver la distance.
Ça, je l'espère, c'est sûr.
Rouler.
Rouler.
Ne pas sourire à la haine en lestant mon cœur par cette chaîne du décompte du temps.
Mutante.
D'un homme de paille. Toujours aller de l'avant, parce que nous nous sommes tous pris dans cet engrenage des horloges.
Comme de ces soirs rasoirs.
Je ne suis pas venu m'asseoir
et la fermer
sur cette autoroute.
À perdre haleine.
Mais je serre les dents, parce qu'à l'entrée du péage,
tu te retrouves
enserré par l'étau de dire au mon pays, à tort ou raison, on compose avec.
Mais décidé de ne faire partie d'aucun parti.
Sauf celui de partager, échanger de la vie, du bonheur en supplément.
Il le faut.
Ce prix, c'est cela aussi.
Vous êtes sur la clé des ondes de 90.10 et vous écoutez l'émission bimensuelle Achaïra, animée par le Cercle Jean Barbier de la Fédération Anarchiste. Le morceau que vous venez d'écouter est interprété par Laurent Mariette Laban à l'écriture et à la jactance, Frédéric Paquet à la mise en forme et en escorte. Ça s'appelle Constat d'habitation. Slamitourite et salutante. Ceux qui vont slamer te saluent. Et ce sont les éditions à Bordeaux, A-B-O-R-D-O. Et on peut trouver cet excellent livre CD à la librairie du Muguet, 7 rue du Muguet, à Bordeaux. Voilà, on continue avec l'actualité. Où va la CGT? Où va la CGT? On peut se le demander. Après les journées d'action processionnaire, l'évacuation de la Bourse du Travail, les lâchages de bases en pétard, voici un nouvel épisode du feuilleton CGT, que certains appellent déjà Confédération Grosse Trahison. À voir. Dans la région de Roanne, la CGT et le MEDEF ont élaboré une charte partenariale qui permet aux 300 entreprises du textile et de la métallurgie de la région de placer leurs salariés en formation plutôt que de les licencier. Cette charte, signée le jeudi 1er octobre, vise à privilégier la formation des personnels d'entreprise en difficulté plutôt que le licenciement pur et simple, selon les termes de la sous-préfecture de Roanne. Elle a été signée donc par la DDT, c'est-à-dire la Direction départementale du travail, l'État, la CFDT, la CFTC-FO, la CFECGC, les syndicats patronaux du textile et de la métallurgie et les organismes paritaires agréés de la formation professionnelle. Voilà. Qu'en dit la CGT? Nous avons convenu avec le MEDEF que face à la crise, il n'y avait rien à gagner à se bagarrer. Voilà. S'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de salariés, pas de salaire. S'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas d'industrie et pas de chiffre d'affaires. Voilà. À méditer. Alors,
gagnant-gagnant, oui.
Voilà.
De la CFDT, oui.
Il semblerait qu'à l'approche du prochain congrès de la CGT, on assiste à une petite séance de balayage. Balayage de qui ? Ben, on écarte certaines personnes dont la présence au sein de l'organisation nuit gravement à la santé de la CGT dans l'union départementale. Voilà. Et ceci dans plusieurs départements, dont le Val-de-Marne et la Côte d'Or. Donc, ben, le congrès de la CGT, qui va se tenir en décembre à Nantes. Si on s'y intéresse, il y a des gens qui se posent des questions et le site s'appelle Où va la CGT sans espace .overblock.com. Voilà. Qui prend la suite?
Je veux bien juste dire un mot d'une grande manifestation dont on a, enfin, à ma connaissance en tous les cas, pas entendu parler dans les médias, qui s'est déroulée le 10 octobre. Et qui a réuni à Paris, pardon, et qui a réuni 10 100 papiers qui se sont rejoints au ministère de la régularisation, rue Baudelic, dans le 18e, et qui ont défilé en scandant des papiers, des papiers, des papiers, et ce jusqu'au ministère de l'immigration. Voilà. Donc est-ce le début d'un grand mouvement des sans-papiers, puisque deux jours après, depuis le 12 octobre, donc, un mouvement de grève s'est déployé en Île-de-France et à ce jour, plus de 3 100 papiers sont en grève sur une quarantaine de sites. Voilà. Donc, ces grèves, c'est pour effectivement réclamer au gouvernement une circulaire fixant des critères objectifs à l'octroi d'un titre de séjour. Ils sont toujours, 8 jours plus tard, 3 000 à tenir une quarantaine de piquets de grève à travers la capitale. Quoi vous dire d'autre ? Le mouvement s'est organisé de manière intersyndicale et interassociative. 5 syndicats, CGT, CFDT, Solidaires, FSU, UNSA. 5 associations, Droits Devant, Ligue des Droits de l'Homme, CIMAD, Femmes Égalité et autres membres. Et le réseau Éducation sans frontières qui a rejoint le mouvement. Voilà. Donc, évidemment, il y a déjà eu des expulsions, violentes. Ça, on ne sait même plus s'il faut le signaler maintenant. Mais ils essaient de tenir. Et évidemment, bon, nous, on n'est pas à Paris, donc pour faire du soutien physique, c'est compliqué, mais je pense que c'est quand même important de signaler ce mouvement de sans-papiers, d'autant que, encore une fois, nos médias, toujours à ma connaissance, ne l'ont pas relayé. Voilà pour une histoire des sans-papiers aujourd'hui. Et c'est notre correspondante parisienne qui a sorti notre ce papier spécial. Sur lequel je me suis appuyée pour vous en parler. Ah, oui. Alors peut-être André, ou est-ce que sur l'actualité, vas-y, on clôt, ou
oui.
Est-ce qu'on passe la parole à André?
Bon, alors si pour ceux qui aiment encore les livres sur papier, y a encore des gens qui lisent sur papier, ouais. Pas sur écran. Je veux vous présenter ce soir un bouquin intitulé « D'une Espagne rouge et noire ». Entretien avec Diego Abad de Santillane, Félix Carrasquer, Juan Garcia Oliver et José Peiratz. C'est aux éditions Libertaires, c'est édité cette année et ça coûte 15 euros. Donc il s'agit d'un bouquin très bien fait, agréable à lire. Je parle de la forme de ce livre qui nous change un peu d'un certain laisser-aller typographique. Bref, c'est de la belle ouvrage. Mais vous allez me dire tout de suite, quant au fond, c'est absolument passionnant. Rien qui ne nous étonne quand on connaît à contre-temps le bulletin de critique bibliographique et d'histoire du mouvement libertaire. Vous savez, cette publication dont je vous ai déjà parlé, qui n'a pas de prix, juste des frais. Eh bien, l'auteur, c'est elle, si j'ose dire. Je m'explique. Les éditions Libertaires ont décidé de consacrer une collection à contre-temps, par thème, en reprenant des articles de cette discrète et excellente revue. C'est donc une première livraison qui nous est proposée avec les présentations et les entretiens de quatre militants historiques de la Révolution espagnole de 1936. Ce que d'autres nomment maintenant une guerre civile des partisans de Franco contre les républicains, occultant ou dénigrant, et en faisant montre d'une totale mauvaise foi, une avancée sociale libertaire jamais vue dans l'histoire. Donc, quatre portraits offerts avec la plus grande honnêteté, et aussi avec juste l'empathie nécessaire à ce genre d'exercice, pour que les entretiens qui suivent prennent un caractère particulièrement émouvant, même quand on ne partage pas tous les points de vue des protagonistes. Donc, il s'agit de Diego Abad de Santillane, alors 1897-1983. C'est un organisateur, un historien, un journaliste. C'est un philosophe qui n'aime pas la violence, qu'il trouve même anti-anarchiste, mais qui la justifie quand le combat l'exige, et qu'il admet au nom de la contingence historique. Le deuxième, c'est Félix Carrasquer, 1905-1993, un pédagogue éminent qui déserta pourtant l'école dès l'âge de 6 ans, qui pensait que la gymnastique révolutionnaire que prônaient certains militants relevait de l'irresponsabilité et de la fanfaronnade. Alors, pour qui ignore tout, à Bordeaux ça me paraît difficile, mais enfin bon, pour qui ignore tout du fonctionnement des collectivités en Espagne à cette époque, qui ignore tout du salaire familial, de la suppression naïve de l'argent, de la structure familiale, de la structure archaïque de la famille qui vole en éclats, de la vie nouvelle des femmes, etc., et également des différentes expériences d'éducation vraiment originales. Le témoignage de Félix Carrasquer et celui de sa compagne Mathilde sont surprenants. On pourra regretter de ne pas entendre plus. Je dis entendre, mais je l'ai lu, mais je l'entendais presque. On regrettera de ne pas entendre plus la voix de Mathilde. Le troisième, c'est Juan Garcia Oliver, 1902-1980, garçon de café, un habitué des prisons, c'est un militant, et qui devint ministre de la Justice. Personnage étonnant, ambivalent, contradictoire, au franc-parler, grand organisateur. Quand on lui demande comment il a pu être anarchiste et ministre, il répond « Dans le cas qui nous intéresse, l'anarchiste n'a aucun problème de conscience, pour la simple raison qu'il a cessé d'être anarchiste. » Le quatrième, c'est José Peyrats, 1908-1989, briquetier et journaliste, puis ouvrier agricole, boulanger à l'occasion, puis historien. C'est pour, à contre-temps, le militant exemplaire, qui fait un peu de tout, qui se méfie du professionnalisme des braqueurs de banque, activité, d'après lui, qui crée une atmosphère très néfaste dans le mouvement. Pour autant, il pratiqua à l'occasion l'explosif. Ses propos antimilitaristes, j'en ai noté quelques-uns, sont à relever. Alors je cite, « La meilleure manière de contrecarrer une armée, ce n'est pas nécessairement d'en former une autre en face. Si tu tentes de former une armée du même type, tu perdras à tous les coups. Tant que le soldat a à ses côtés un chef qui le commande, le poids de la discipline le fait obéir, même si le soldat est anarchiste. Dans la camisole de force qu'est la discipline, le soldat n'est qu'une machine. S'il a une conscience, il tire avec plus ou moins de conviction, mais il tire. Sauf à vouloir se suicider, il est très difficile pour un soldat de ne pas respecter les ordres. » Les militants de la Confédération nationale du travail CNT, de la Fédération anarchiste ibérique FAI, les trentistes scissionnistes, dont il faudrait reparler, donc ces trois organisations, tendances, hein, ces trois mouvements, accompagnent les acteurs, les quatre acteurs de la scène historique et sociale. La lecture, l'écoute, je dis l'écoute parce qu'on les entend parler, presque, l'écoute de ces témoignages nous prend complètement. Ils m'ont pris complètement. On ne juge plus, on ne prend plus parti, on devient des plus attentifs aux propos de ces survivants. La plupart des autres furent emportés dans la tourmente. Oui, nous, les anarchistes, nous n'en finirons jamais avec l'expérience espagnole, ou plutôt nous ne devrions jamais en finir. Il y a là une réserve d'idées, un trésor de pratiques à remettre au jour. Il y a là la richesse immense de la galaxie libertaire. Il s'agirait maintenant pour le lecteur français d'y aller voir de plus près et de fouiller dans tout ce qui a été systématiquement ignoré et quelquefois gâché par nous-mêmes. Si la porte de l'histoire s'est refermée brutalement par la victoire du fascisme, qu'on a voulu combattre avec les mêmes armes que lui, pour être finalement vaincu, il devrait être encore possible d'y entrer par les fenêtres que nous ouvrirons.
Donc c'est un ouvrage qui est paru, tu disais, aux éditions du Monde Libertaire.
Non, Libertaire.
Les éditions Libertaires.
Les éditions Libertaires. Et qui s'appelle D'une Espagne.
D'une Espagne rouge et noire, entretien avec Diego Abad de Santillane, Félix Carrasquer, Juan García Oliver et José Peiratz.
La rue dans le contretemps, c'est ça, c'est une compilation. Hein.
Alors, c'est une... ces textes étaient déjà parus dans le bulletin, mais réunis, je trouve qu'ils ont une force absolument étonnante. Moi, je les avais lus donc séparément. Bon, j'avais trouvé ça intéressant. Mais réunis, c'est fort. Je vous le conseille. Et puis, c'est bien foutu, c'est une très bonne typo.
Non, mais ça donne envie, ouais. Déjà, ouais. Bon, on passe à l'agenda.
Mais je vais faire une petite recette courte.
Oui,
une petite recette. Moi, j'avais le choix entre une plus longue, mais je vous la réserverai pour la prochaine fois, je vous dirai le titre. Donc là, ça c'est une recette de cuisses de filles jambes en l'air.
On peut faire ça dans nos réunions conviviales.
Écoute, d'abord, je vais donner la recette. Mais il n'y a pas vraiment tous les temps de cuisson et tous les ingrédients, mais bon. Donc, le mode opératoire. Défaites les bas et lavez-les dans une bassine remplie d'eau froide avec un morceau de savon parfumé à la violette. Ensuite, égouttez-les. Mettez dans une marmite un bon morceau de beurre. Hein. Laissez-le fondre à feu doux. Placez-y les cuisses de filles après les avoir fait sauter. Ajoutez un bol de lait. Remuez le tout, assaisonnez avec sel, poivre, persil, échalotes hachées, ail, piment pilé. Activez un peu le feu et au bout d'une petite heure, retirez votre marmite du feu et versez le contenu dans les bas. Servez bien chaud, les bas suspendus par des élastiques au plafond. C'est un plat très gai à déguster entre amis. Les jambes montent et descendent au-dessus de la table et ça devient très vite un jeu de les attraper. Mais gare aux taches suspectes sur les habits. Pour la prochaine fois, je vous proposerai donc une tête de patron dans la purée. Voilà, toutes ces propositions de recettes sont issues d'un livre de cuisine cannibale, je ne sais pas si on le trouve encore, écrite par Roland Topor, André Ballant. Voilà, mais nous y étions venus il y a quelques années, et on va y revenir à l'occasion, pour sourire un peu.
Alors, pour l'agenda,
voilà. Donc, qui s'y colle
samedi d'abord, à moins qu'il y ait quelque chose vendredi.
Alors.
Tu as quelque chose vendredi?
Non, pas avant le 24, juste à faire l'annonce de... mardi avait lieu le débat avec Omer Charest, des anarchistes contre le mur. Vous pouvez trouver donc samedi à la librairie en soutien la brochure qu'il a amenée, Anarchistes Against the Wall. Donc c'est le €60 000 qu'ils ont d'amende à payer. Voilà. Donc,
samedi, on vous en a un petit peu parlé. Donc, il y aura Ronald Craig qui sera à l'Athénée Libertaire, 7 rue du Muguet à 17h. Voilà, pour un débat.
Ensuite, il y a une réunion le 26 octobre Lundi 26 octobre à 20h au Samovar, il y a une réunion d'un groupe qui s'appelle la Plateforme des Migrants, donc qui avait organisé une manifestation samedi dernier à 18h sous le pont, le pont en bois du bout des quinquandeurs d'asile, donc qui faisait des défiances. Donc ils ont obtenu, les logements pour 7 personnes. Alors, ils ont appris pendant la manifestation, le 8e qui était donc, s'était inscrit en Suisse, doit retourner en Suisse pour obtenir un logement. Et donc là, ils veulent continuer le travail sur la question du logement des primo-arrivants isolés aussi, et des déboutés de... l'unité de soutien qui a été mise en œuvre pour le docteur Thomas. Docteur Thomas, c'est un docteur du cours Victor Hugo qui fournissait donc des certificats qui est accusé de fournir des certificats à la fois pour les sans-papiers et pour les toxicomanes, et donc qui est accusé d'avoir fait payer l'acquisition de ces certificats. Et donc il est recherché des témoignages, puisque beaucoup d'associations considèrent que c'est en fin de compte une pression infondée qui pèse sur lui, alors qu'il est suspendu, avec l'objectif simplement d'éradiquer un petit peu du cours Victor Hugo toute une population, et que donc son cabinet était drainé, entre guillemets, comme il avait un accueil favorable vis-à-vis de si bien des toxicomanes que des sans-papiers, était gênant. Et donc il se trouve que une des personnes qui amenait ces sans-papiers, lui, se faisait payer, et donc la police, la préfecture, a extrapolé en disant que lui se faisait payer au-delà de son profession. Donc il est recherché des témoignages comme quoi, effectivement, de personnes qui l'ont connu et pratiqué, comme quoi il ne percevait pas de frais supplémentaires pour les arrêts de travail. Voilà, donc ça, c'est ce travail. Mais en tout cas, il a été suspendu. Voilà ce que je peux dire à ce jour.
D'autres dates?
Alors, après, les autres dates, j'ai... on va peut-être revenir à un sujet dont on avait parlé, qui était celui de la privatisation de la Poste. Donc il y a un nouveau calendrier. Je pense que vous avez parlé de la ce qui s'est appelé la votation, donc qui a eu lieu le 3 octobre. Je ne sais plus s'il y en a eu des missions depuis ou avant. Et donc consultation des citoyens a très bien marché, puisqu'il y a eu 2,3 millions de personnes qui ont répondu, beaucoup qui sont en pleine pas avoir pu y participer. Et donc, il y a une nouvelle phase. D'abord, le processus législatif avance. Donc, le projet va passer au Sénat du 2 au 6 novembre. Là, est déjà enclenché la semaine prochaine la consultation d'une commission du Sénat. Donc, ce qui est prévu, c'est une interpellation du président sous la forme de carte postale, avec l'objectif, un, que chacune des personnes qui a déjà participé à la consultation rédige cette carte postale, dont on sait évidemment qu'elle, puisqu'elle va au président et sans frais, pour réappuyer la votation, et avec l'objectif de doubler, de passer donc aujourd'hui à 5 millions de personnes qui enverraient une carte postale. Donc il est proposé de remobiliser l'ensemble des groupes locaux qui s'est mis en œuvre, et donc ça commencera le 31 octobre le 31 octobre de cette année, samedi prochain, donc devant les bureaux de poste, là où il y a eu des consultations, il devrait y avoir des tables avec des piles de cartes postales pour les renvoyer. Le 2 novembre, donc, est prévu devant le Sénat un rassemblement des comités locaux pour interpeller le Sénat et du comité national. Et à Bordeaux, il y aura à 11h30 devant la Poste un rassemblement pour aller déposer les bulletins qui ont été collectés en Gironde, les déposer au préfet vers midi, à l'occasion d'une demande d'audience. Donc voilà les rendez-vous. Ben c'est, et bien sûr, j'ai parlé du 31 octobre, mais les cartes postales, ça continuera un peu plus longtemps. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'autre annonce, c'est le faire vite. Le Monde Libertaire dont vous parle régulièrement ici, qui fait un appel aux lecteurs et lectrices, un test un petit peu. Il invite ses lecteurs et lectrices à prendre la parole sur le thème « Quelle alternative au capitalisme et à la social-démocratie ?» avec l'objectif de faire un numéro hors série des lecteurs qui paraîtrait le 24 décembre 2009 sur cette thématique. Et donc, si ce sujet... vous fait réfléchir, vous propose, vous êtes invité à faire un article d'environ 5000 signes typographiques, espace compris, et donc, ça c'est la taille d'une page, et demander à ce que le maximum, ça soit un grand maximum de 3 pages. Voilà, mais sont acceptés des articles, des poèmes, des brèves, des citations, etc. Donc il s'agit de laisser un contact et donc d'envoyer tout ça avant le 30 novembre 2009 à Publico ML des lecteurs, 145 rue Amelon, 75 011 Paris, France, ou par email à mldlecteurs, tout attaché, @yahoo.fr. Voilà, donc la proposition, si l'idée de proposer un article, un écrit sur le sujet « Quelle alternative au capitalisme et à la social-démocratie ?» eh bien, avant le 30 novembre 2009. Peut-être on en reparlera encore.
Oui. Peut-être donner juste une fois l'adresse, quand même.
Une nouvelle fois, alors. Publico.com/mldlecteurs, ML étant les abréviations de Monde Libertaire, 145 rue Amelon, 75 011 Paris, ou ML des lecteurs, tout attaché, mldeslecteurs, @yahoo.fr.
Bien, l'émission Chaïra touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours, le jeudi 5 novembre. Vous souhaitant une bonne soirée. Chers auditeurs, chères auditrices.
Et bonne nuit.
Bonne nuit à tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonne nuit.
Son pays, elle a choisi de venir vivre ici. Pour elle ici, c'est un vrai paradis. Tout est permis, putain quelle liberté.
Irina, viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. C'est tellement mieux qu'ici ou là-bas. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Chez moi, c'est tellement mieux qu'ici ou là-bas. Viens faire un tour chez moi, viens faire un tour chez moi. Thank you.
90.10, la clé des ondes.
Les hémisphères bleus de la lune jouent avec ton regard troublant quand tu te fous de l'amertume de ceux qui te baisent en rêvant. Je reste là dans ta dérive à contempler le jour naissant de ta frêle beauté qui esquive tous les futurs compromettants. Leur flamme énigmatique pour éclairer les déferlantes au fond de tes yeux magnétiques. Les cœurs de l'armée du salut se mettent en transe lorsque tu danses et tu téléphones au SAMU pour qu'on le ramène aux urgences.
Last exit to paradise.
quand tu verras refleurir le temps des rires et des glaïeuls. Je viendrai dans tes souvenirs pour te sentir un peu moins seul. Je serai ton joyeux fantôme, émaché du petit matin, celui des critiques et des tomes du Quattrocento florentin.
Grand plaisir de vous présenter l'une des plus prestigieuses petites formations du jazz. Jazz.
Clé des ondes en noir et blanc, c'est Spy Market, tous les dimanches de 19h30 à 21h. Une heure et demie de ska, de rocksteady, d'acid jazz, d'easy listening et de soul, ainsi que quelques infos. Alors n'oubliez pas, Spy Market, tous les dimanches de 19h30 à 21h sur le 90.10, la clé des ondes.
Thank you. Souviens-toi quand t'étais gosse, ce cousin qui t'énervait tant, celui qui était peigné en brosse, qui avait le collier de Raon. Tu sais, celui qui aimait les animaux, qui avait toujours l'air bien dans sa peau, qui avait ce sourire de gros gland que tout le monde trouvait si craquant. Le cousin qui avait toujours la cote, qui avait déjà une petite amie, un badge touche pas à mon pote et le disque pour l'Éthiopie, qui avait fait sa communion, qui était bon en mathématiques, qui avait ce sourire à la con que tout le monde trouvait angélique. Celui qu'on te donnait en modèle quand t'avais fait une connerie, mais racontait des trucs affreux sur ta mère pour pas que tu la ramènes. Ben je suis sûr que comme moi tu t'en croyais débarrassé. En grandissant tu l'avais de moins en moins vu et puis oublié. Mais voilà il est revenu, tu l'as reconnu à la télé, l'affreux cousin focus sous les traits de David Douillet. C'est un gars tout simple en vérité, tous ceux qui le connaissent vous le diront. Malgré la gloire et le succès, ben il a su rester bien con. Il disait comme ça que le sport, pour lui c'est l'école de la vie, que ça rend droit heureux et fort et qu'il fallait tous faire comme lui. Douillet c'est un peu Berlusconi qui serait devenu prof de philo. Mais quand il parle d'injustice, alors là c'est carrément Zorro. Là un gros cœur de gros costaud trouve que c'est malheureux le malheur. C'est Mère Teresa en kimono, Godzilla au pays des fleurs. Il aide toujours les petits vieux à traverser la chaussée. D'ailleurs il en connaît bien deux qui habitent vers l'Elysée. Et qu'il veille sur eux, c'est très bien. Ce garçon est vraiment un ange. Dans quelque temps, on espère bien qu'il leur portera des oranges.
La clé des ondes. I'm blue,